Bonjour amis auditeurs, bienvenue dans l'émission hebdomadaire sur les Pères de l'Église que nous commentons les écrits des Pères et aujourd'hui nous voyons pour la deuxième fois l'épître, la première épître aux Corinthiens commentée par Jean Chrysostome. Nous sommes au début de la troisième homélie. Or je vous supplie mes frères par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur d'avoir tous un même langage et de ne point souffrir de schisme parmi vous, mais d'être tous unis parfaitement dans un même esprit et un même sentiment. C'est toujours la première aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17. Les reproches, comme je vous l'ai toujours dit, doivent venir doucement, peu à peu, et c'est ce que Paul fait ici. Sur le point d'aborder un sujet plein de périls et capable de renverser l'Église de fond en comble, il adoucit son langage. Il dit qu'il les supplie, mais qu'il les supplie par le Christ, comme s'il ne se sentait pas capable de les prier et de les persuader par lui-même. Si en effet vous commencez par de violents reproches, vous ferez des rebelles et des impudents. Si vous grondez doucement, vous verrez le coupable incliner la tête. Gardez le silence et baissez les yeux, c'est ce que Paul va faire, et en attendant, il exhorte au nom du Christ. Et à quoi exhorte-t-il ? À avoir tous le même langage et à ne pas souffrir de schisme parmi vous. Le sens énergique du mot « schisme » et le blâme qu'implique ce terme était bien propre à les blesser au vif, car il n'y avait pas beaucoup de parties entières, mais l'unité même avait péri. Ensuite, après les avoir blessés au vif par le mot de « schisme », il se radoucit et mitige ainsi son langage, mais d'être tous unis dans le même esprit et dans le même sentiment. Après avoir dit d'avoir tous le même langage, il ajoute « Ne pensez pas que je parle seulement de l'accord du langage ». Je demande aussi l'accord de pensée. Et comme il peut arriver que cet accord existe, mais non sur tous les points, il ajoute, mais d'être unis d'une manière parfaite. Car celui qui est d'accord sur un point et en désaccord sur d'autres n'est point uni en perfection, n'est point parfait sous le rapport de l'union. On peut encore être uni par la pensée et ne l'être point par le sentiment. Ce qui arrive, par exemple, quand nous avons la même foi et que nous ne sommes pas liés par la charité. En ce cas, nous sommes unis par la pensée, puisque nous pensons les mêmes choses, mais nous ne le sommes point par le sentiment, ce qui avait lieu alors, où les uns s'attachaient à un maître, les autres à un autre. C'est pourquoi il exige qu'on soit unis d'esprit et de sentiment, car les schismes ne provenaient pas de la différence de foi, mais de la diversité des sentiments, effet des rivalités humaines. Et comme un accusé se montre insolent tant qu'il n'a pas de témoin contre lui, voyez comment il en produit pour les mettre hors d'état de nier. J'ai été averti sur votre compte, mes frères, par ceux de la maison de Chloé. Et voyez sa prudence. Il ne désigne point une personne en particulier, mais toute une maison, pour ne point les irriter contre l'auteur des révélations. Par là, il a mis celui-ci à couvert et a pu librement formuler son accusation. Il ne songe pas seulement aux intérêts des uns, mais aussi à ceux des autres. Chacun de vous dit... Pour moi, je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas. Ce ne sont pas, dit-il, des disputes pour des intérêts privés, mais d'autres beaucoup plus fâcheuses. Chacun de vous dit, ce n'est pas une partie de l'Église, mais l'Église entière que le fléau ravage. Ce n'est point parce qu'il se préfère à Pierre qu'il le nomme le dernier, mais au contraire, parce qu'il se met fort au-dessous de Pierre. Il parle par gradation, pour ne pas avoir l'air d'agir par envie, ni de vouloir priver ceux-ci de l'honneur qui leur est dû. Voilà pourquoi il se nomme le premier, car celui qui se réprouve le premier n'agit point par le désir de l'honneur, mais par un profond mépris pour la vaine gloire. Évidemment, c'était un tort de prendre le parti d'un tel ou d'un tel, et il a raison de le leur reprocher en disant « Vous ne faites pas bien de dire « Moi je suis à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas ». Mais pourquoi ajoute-t-il « et moi au Christ » Si c'était une faute de s'attacher à des hommes, ce n'était certainement pas une de tenir pour Jésus-Christ. Aussi ne leur reproche-t-il point de le faire, mais de ne pas le faire tous. Je pense aussi qu'il a ajouté ce nom de lui-même afin de donner plus de poids à l'accusation et de faire entendre que le Christ est resté le lot de quelques-uns, mais non de tous. Que telle ait été sa pensée, la suite le fait voir. Le Christ est-il divisé ? C'est-à-dire, vous avez scindé le Christ et divisé son corps. Voyez-vous le courroux, voyez-vous le reproche, voyez-vous le langage de l'indignation ? Il ne prouve pas, il interroge, supposant cette absurdité confessée. Et comme c'était précisément là l'origine du schisme, que chacun se rattachait à celui qu'il avait baptisé, il redresse cette erreur en disant Est-ce que vous avez été baptisé au nom de Paul ? Ne me dites point par qui, mais au nom de qui vous avez été baptisé. Car il ne s'agit point de savoir qui baptise, mais quel est celui dont le nom est invoqué dans le baptême, puisque celui-là seul remet les péchés. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, si ce n'est Crispus et Caius. Pourquoi êtes-vous si fiers de baptiser, quand je remercie Dieu de n'avoir pas baptisé ? Par ces paroles, il guérit prudemment leur enflure, non en niant la force du baptême, ce qu'à Dieu ne plaise, mais en réprimant l'orgueil de ceux qui se vantaient d'avoir baptisé. Et pour cela, il leur fait voir d'abord que ce don ne vient pas d'eux, et en second lieu, il remercie Dieu à cette occasion. Sans doute le baptême est une grande chose, mais à cause de celui qu'on y invoque, et non à cause de celui qui le donne. Baptiser n'est rien quant à l'effort exigé de la part de l'homme. Évangéliser est beaucoup plus. Je le répète, le baptême est une grande chose, puisque sans lui, on ne peut parvenir au royaume. Mais l'homme le plus vulgaire peut le donner, tandis que prêcher l'évangile est une œuvre très laborieuse. Il expose la raison pour laquelle il rend grâce à Dieu de n'avoir baptisé personne. Quelle est-elle ? Pour que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Quoi donc ? Parlait-on de cela ? Non, mais je crains, dit-il, que le mal n'aille jusque-là. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais prêcher l'Évangile. Œuvre bien plus laborieuse, qui exigeait beaucoup de sueur et une âme de fer, et qui renfermait tout. Voilà pourquoi on l'avait confié à Paul. Non pas dans la sagesse de la parole, pour ne pas réduire à rien la croix de Jésus-Christ. Après avoir rabattu l'orgueil de ceux qui s'estimaient pour avoir baptisé, il passe à ceux qui se glorifiaient de la sagesse mondaine et les attaque avec vivacité. Mais ici, tout d'abord, il frappe un grand coup en disant « pour ne pas réduire à rien la croix de Jésus-Christ ». Pourquoi vous glorifiez d'une chose qui doit vous couvrir de honte ? Car si cette sagesse est l'ennemi de la croix et de l'Évangile, loin de s'en vanter, il faut en rougir. Voilà pourquoi les apôtres ne l'ont point eu, non que la grâce leur fit défaut, mais pour ne point nuire à la prédication. Ces sages, selon le monde, ébranlaient donc la doctrine au lieu de l'affermir, et les simples la consolidaient. Voilà de quoi confondre l'orgueil, détruire l'enflure et inspirer des sentiments de modestie. Dites-moi un peu, Pierre et Paul étaient-ils savants ? Vous ne pourriez le dire, car ils étaient simples et sans lettres. Ce n'est point là blasphémer les apôtres. Toute leur gloire, au contraire, est d'avoir, étant tels, triomphé du monde entier. Oui, ces hommes simples, grossiers et ignorants ont abattu les sages, les puissants, les tyrans, ceux qui jouissaient et se pavanaient des richesses, de la gloire, de tous les avantages extérieurs. Ils les ont abattus comme s'ils n'eussent pas été des hommes. Il est donc évident que la puissance de la croix est grande et que rien de tout cela n'est l'effet du pouvoir humain, car ces succès n'ont rien de naturel, tout y est surnaturel. Or, quand il se passe un événement supérieur, très supérieur à la nature, et en même temps convenable et utile, il est manifeste qu'on doit l'attribuer à quelque vertu, à quelque opération divine. Dites-moi de grâce, si 12 hommes étrangers à l'art de la guerre, non seulement sans armes, mais même faibles de constitution, s'élançant tout à coup sur une innombrable armée, n'en éprouvaient aucun mal, restaient sains et saufs au milieu d'une grêle de traits, et conservant leurs javelots suspendus à leur corps nu, abattaient tous leurs ennemis sans user de leurs armes, mais en les frappant seulement de la main, tuaient les uns et faisaient les autres prisonniers sans recevoir la moindre blessure, dites-moi, attribuerait-on cela à la puissance humaine ? Et pourtant, le triomphe des apôtres est beaucoup plus étonnant que celui-là. Car qu'un ignorant, qu'un homme sans lettres, qu'un pécheur ait triomphé de tant d'éloquence, n'ait été arrêté ni par leur petit nombre, ni par la pauvreté, ni par les dangers, ni par la puissance de l'habitude, ni par la sévérité des préceptes qu'ils imposaient, ni par des morts quotidiennes, ni par la multitude de ceux qui professaient l'erreur, ni par l'autorité de ceux qui enseignaient, voilà qui est bien plus incroyable que de voir un homme nu n'être pas blessé. Abattons-les donc de la même manière, combattons-les ainsi, réfutons-les par notre conduite plutôt que par notre langage. Les œuvres, voilà le vrai combat, le raisonnement sans réplique. Quand nous argumenterions sans fin, ce serait peine perdue si nous ne tenions une conduite meilleure que la leur. Ce ne sont pas nos paroles, mais nos actions qu'ils étudient. Ils nous disent « Sois d'abord fidèle à ta doctrine et prêche-la ensuite aux autres. Si tu parles de biens infinis réservés à l'avenir et que tu paraisses attaché au bien présent comme si cela n'existait pas, je crois à tes actions plutôt qu'à tes paroles. Quand je te vois ravir le bien d'autrui, pleurer outre mesure ceux qui ne sont plus, commettre une foule d'autres péchés, comment te croirais-je lorsque tu parles de résurrection ? S'ils ne vous disent pas cela, ils le pensent et s'en préoccupent. Et là est l'obstacle qui empêche les infidèles de devenir chrétiens. Convertissons-les donc par notre propre conduite. Quatrième homélie. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, c'est-à-dire pour nous, elle est la vertu de Dieu. Car il est écrit, « Je perdrai la sagesse des sages, je rejetterai la science des savants. » Que sont devenus les sages? Que sont devenus les docteurs de la loi? Que sont devenus les esprits curieux de ce siècle? La parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Et comme il était vraisemblable que, voyant la croix tournée en dérision par les Grecs, les Corinthiens résisteraient dans la mesure de leur propre sagesse et se donneraient beaucoup de troubles pour réfuter les discours des païens, Paul les console en leur disant « Ne pensez pas que ce soit là une chose étrange et insolite. Il en est dans la nature même des choses que la vertu de la croix soit méconnue de ceux qui se perdent, car ils n'ont plus le sens, ils sont fous. Voilà pourquoi ils profèrent des injures et ne supportent pas les remèdes du salut. » Ne vous troublez donc pas, il n'y a rien d'étrange, rien de surprenant à ce que des insensés tournent de grandes choses en dérision. Or, la sagesse humaine ne saurait changer une telle disposition. En essayant de le faire, vous atteindriez un but opposé, car tout ce qui dépasse la raison n'a besoin que de la foi. Si nous tâchons de démontrer par le raisonnement et sans recourir à la foi comment un Dieu s'est fait homme et est entré dans le sein d'une vierge, nous ne ferons que provoquer davantage leur raillerie. Ceux qui usent ici du raisonnement sont précisément ceux qui se perdent. Examinez bien, quand je dis « il a été crucifié », le grec demande « comment cela s'accorde-t-il avec la raison ? » Il ne s'est pas aidé lui-même quand il subissait l'épreuve et le supplice de la croix. Comment donc est-il ensuite ressuscité et a-t-il sauvé les autres ? S'il le pouvait, il aurait dû le faire avant de mourir, ainsi que le disaient les Juifs. Comment celui qui ne s'est pas sauvé a-t-il pu sauver les autres ? C'est là, dira-t-on, une chose que la raison ne saurait admettre. Et c'est vrai, la croix, ô homme, est une chose au-dessus de la raison et d'une vertu ineffable, car subir de grands maux, leur paraître supérieur et en sortir triomphant, c'est le propre d'une puissance infinie. Comme il eût été moins étonnant que les trois jeunes Hébreux ne fussent pas jetés dans la fournaise que d'y être jetés et de fouler la flamme aux pieds, comme il eût été beaucoup moins merveilleux pour Jonas de n'être pas englouti par la baleine que d'en être englouti sans en souffrir. Ainsi, il est bien plus admirable que le Christ d'avoir vaincu la mort en mourant que de ne l'avoir pas subi. Ne dites donc point, pourquoi ne s'est-il pas sauvé lui-même sur la croix? Car son intention était de lutter avec la mort. Il n'est point descendu de la croix, non parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne le voulait pas. Comment les clous de la croix auraient-ils retenu celui que la puissance de la mort n'a pu enchaîner? Toutes ces choses nous sont connues, mais les infidèles les ignorent. Voilà pourquoi Paul dit que la parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais que pour ceux qui se sauvent, c'est-à-dire pour nous, elle est la vertu de Dieu. Car il est écrit « Je perdrai la sagesse des sages, je rejetterai la science des savants ». Jusqu'ici, il n'a rien dit de désagréable. Il a d'abord invoqué le témoignage de l'Écriture, puis, s'enhardissant, il emploie les termes les plus violents et dit « Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ? Que sont devenus les sages ? Que sont devenus les docteurs de la loi ? Que sont devenus les esprits curieux de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ? Car Dieu, voyant que le monde, aveuglé par sa propre sagesse, ne l'avait point connu dans les œuvres de la sagesse divine, a jugé à propos de sauver par la folie de la prédication ceux qui croiraient en lui. » Après avoir dit qu'il est écrit « Je perdrai la sagesse des sages », il en donne une preuve de fait en ajoutant « Que sont devenus les sages ? Que sont devenus les docteurs de la loi ?» frappant ainsi du même coup les Grecs et les Juifs. Car quel philosophe, quel habile logicien, quel homme instruit dans le judaïsme a procuré le salut et enseigné la vérité ? Pain 1-2. Les pécheurs ont tout fait. Après avoir tiré sa conclusion, abattu leur enflure, il est dit « Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ?» Il donne la raison de tout cela. Parce que, dit-il, aveuglé par sa propre sagesse, le monde n'a pas connu Dieu dans la sagesse divine, la croix apparue. Qu'est-ce que cela, dans la sagesse divine ? C'est-à-dire dans la sagesse qui s'est manifestée dans les œuvres par lesquelles il a voulu se faire connaître. car il a produit ses œuvres et d'autres semblables, afin que leur aspect fît admirer le Créateur. Le ciel est grand, la terre est immense. Admirez donc celui qui les a faits. Et ce ciel si grand, non seulement il l'a créé, mais il l'a créé sans peine. Cette vaste terre, il l'a produite sans effort. Voilà pourquoi il est dit de l'un, « Les cieux sont les ouvrages de vos mains », et de l'autre, « Il a fait la terre comme rien ». Mais comme le monde n'a pas voulu connaître Dieu au moyen de cette sagesse, Dieu l'a convaincu par la folie apparente de la croix, non à l'aide du raisonnement, mais de la foi. Ce n'est point avec la sagesse, mais avec la foi que les apôtres ont paru, et ils sont devenus plus sublimes et plus sages que les sages, d'autant que la foi qui accepte les choses de Dieu l'emporte sur l'art de raisonner, car ceci surpasse l'esprit humain. Comment Dieu a-t-il perdu la sagesse ? En se révélant à nous par Paul et ses semblables, il nous a fait voir qu'elle était inutile. En effet, pour recevoir la prédication évangélique, le sage ne tire aucun avantage de sa sagesse, ni l'ignorant ne souffre de son ignorance. Bien plus, chose prodigieuse à dire, l'ignorance est ici une meilleure disposition que la sagesse. Oui, le berger, le paysan, mettant de côté les raisonnements et s'abandonnant à Dieu, recevront plutôt la prédication évangélique. Voilà pourquoi Dieu a perdu la sagesse. Après s'être d'abord détruite elle-même, elle est devenue ensuite inutile. Car quand elle devait faire son œuvre propre et voir le maître par ses œuvres, elle ne l'a pas voulu. Maintenant, quand elle voudrait se produire, elle ne le pourrait plus, car l'état des choses n'est plus le même et l'autre voie pour parvenir à la connaissance de Dieu est bien préférable. C'est pourquoi il faut une foi simple que nous devons chercher à tout prix et préférer à la sagesse du dehors, puisque l'apôtre dit « Dieu a convaincu de folie la sagesse ». Qu'est-ce que cela veut dire « il a convaincu de folie » ? Il a prouvé qu'elle est une folie quand il s'agit de parvenir à la foi, et comme on avait d'elle une haute estime, il s'est hâté de la confondre. En effet, qu'est-ce que cette sagesse qui ne peut trouver le premier des biens ? Il l'a fait paraître folle parce qu'elle s'était d'abord démontrée telle elle-même. Si, quand il était possible de trouver la vérité à l'aide du raisonnement, elle n'a pu le faire, comment en sera-t-elle capable, maintenant qu'il s'agit de choses plus importantes et qu'on n'a plus besoin de talent mais de foi ? Dieu l'a donc convaincue de folie, et il a jugé à propos de sauver le monde par la folie non réelle mais apparente de la croix. Et c'est là ce qu'il y a de plus grand, que Dieu ait vaincu cette sagesse, non par une sagesse plus excellente, mais par une sagesse qui a une apparence de folie. Il a abattu Platon, non par un autre philosophe plus sage, mais par un pécheur ignorant. Ainsi, la défaite est devenue plus humiliante et le triomphe plus éclatant. Puis, démontrant la puissance de la croix, l'apôtre dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Pour nous, nous prêchons le Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, mais qui est la force de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, soit parmi les Juifs, soit parmi les Grecs. » Il y a un grand sens dans ces paroles, car il veut dire que Dieu a vaincu à l'aide des contraires et que la prédication n'est pas de l'homme. Voici ce qu'il entend. Quand nous disons aux Juifs « Croyez », ils nous répondent « Ressuscitez les morts, guérissez les possédés du démon, montrez-nous des prodiges. » Et que répliquons-nous à cela ? « Celui que nous tous péréchons a été crucifié et il est mort. » Cette parole est peu propre à attirer ceux qui ne veulent pas venir, car elle devrait repousser ceux-mêmes qui en seraient tentés. Et pourtant, elle ne repousse pas, elle attire, elle subjugue, elle triomphe. À leur tour, les Grecs nous demandent l'éloquence des discours, l'habileté des sophismes. Nous leur prêchons encore la croix. Et ce qui paraît faiblesse aux Juifs, les Grecs l'appellent folie. Quand donc, bien loin de leur accorder ce qu'ils demandent, nous leur offrons tout le contraire, car non seulement la croix n'est point un miracle, mais au point de vue de la raison, elle est l'opposé du miracle, non seulement elle n'est point un signe de force, ni une preuve de sagesse, mais plutôt un indice de faiblesse et une apparence de folie, quand, dis-je, non seulement ils n'obtiennent ni les miracles ni la sagesse qu'ils demandent, mais entendent ce qu'il y a de plus opposé à leur désir et qu'ils s'en laissent persuader, comment ne pas voir là la puissance infinie de celui qui est prêché ? C'est la preuve d'une grande puissance et d'une grande sagesse que de persuader par les contraires. La croix semble être un objet de scandale et loin de scandaliser, elle attire. À cette pensée, Paul, émerveillé, s'écrie que ce qui paraît en Dieu une folie est plus sage que les hommes, et que ce qui paraît en Dieu une faiblesse est plus fort que les hommes. Cette folie, cette faiblesse, non réelle mais apparente, dont il parle ici, c'est la croix, et il répond dans leur sens. Car ce que les philosophes n'ont pu faire avec leur raisonnement, cette prétendue folie l'a fait. Et la croix, prêchée par des ignorants, a convaincu, a attiré à elle le monde entier, non en traitant des questions insignifiantes, mais en parlant de Dieu, de la vraie religion, de la règle évangélique, du jugement futur. Et elle a transformé en philosophes tous les hommes, des paysans, des ignorants. Voyez donc comme ce qui paraît folie et faiblesse de Dieu est plus sage et plus fort que les hommes. Comment plus fort ? Parce que la croix a parcouru tout l'univers, dominé tous les hommes par la force, et que quand des milliers s'efforçaient d'éteindre le nom du crucifié, c'est le contraire qui est arrivé. Car ce nom a fleuri, a grandi de plus en plus, et ses ennemis se sont perdus, ont couru à leur ruine. Les vivants combattaient le mort et n'ont rien pu contre lui. Donc, quand le grec m'accuse de folie, il prouve lui-même son extrême folie. Quand je passe pour un insensé à ses yeux, je suis réellement plus sage que les sages. Quand il me reproche ma faiblesse, il fait preuve lui-même d'une plus grande faiblesse. Car les succès qu'ont obtenus par la grâce de Dieu des publicains, des pécheurs, les philosophes, les rhéteurs, les tyrans du monde, le monde entier, malgré des peines infinies, n'ont pu même les rêver. Que n'a pas amené la croix ? La doctrine de l'immortalité de l'âme, de la résurrection du corps, du mépris des choses présentes, du désir des choses à venir. Des hommes, elle a fait des anges. De toutes parts, on voit des philosophes et qui donnent des preuves de toute espèce de courage. Rien d'étonnant à ce que ce philosophe, Socrate, ait bu la ciguë, étant forcé de la boire et étant parvenu à l'extrême vieillesse, car il déclara lui-même qu'il avait 70 ans quand il méprisait ainsi la vie, si tant est que ce soit là du mépris. Ce que je n'admets pas, ni moi, ni personne. Mais montrez-moi un qui ait soutenu courageusement les tortures pour la religion, comme je vous en montrerai des milliers sur tous les points du globe. Cinquième homélie. En effet, considérez mes frères, qui sont ceux d'entre vous qui ont été appelés. Il y a peu de sages selon la chair, peu de puissants, peu de nobles. Mais Dieu a choisi les moins sages selon le monde pour confondre les sages. La croix est une preuve de puissance et de sagesse infinie, et que ce qui paraît folie en Dieu surpasse de beaucoup la sagesse humaine. Il le prouve de nouveau, non plus par les maîtres, mais par les disciples. Considérez, dit-il, qui sont ceux d'entre vous qui ont été appelés. Car Dieu n'a pas seulement choisi des ignorants pour maîtres, mais aussi pour disciples. Il y en a peu de sages selon la chair. Il y a donc dans cette prédication plus de force et plus de sagesse, puisqu'elle entraîne la multitude et persuade même les ignorants. Il est en effet très difficile de convaincre un ignorant, surtout quand il s'agit de choses importantes et nécessaires. Et cependant, les apôtres l'ont fait. Et il appelle les Corinthiens eux-mêmes en témoignage. Considérez, mes frères, qui sont ceux d'entre vous qui ont été appelés. Examinez, écoutez. Car la plus grande preuve de la sagesse du maître, c'est que des ignorants aient accepté les enseignements si sages, plus sages que tous les autres. Que veut dire, selon la chair ? C'est-à-dire d'après les apparences, au point de vue de la vie présente et de la doctrine du dehors. Ensuite, pour ne pas se contredire lui-même, car il a convaincu le proconsul, l'Aréopagite ainsi qu'Apollos, et nous savons que d'autres sages ont assisté à sa prédication, il ne dit pas « il n'y a point de sages, mais il y en a peu de sages ». Car il n'appelait point exclusivement les ignorants et ne renvoyait pas les sages. Il admettait ceci, mais en bien plus grand nombre que cela. Pourquoi ? Parce que celui qui est sage selon la chair est rempli de beaucoup de folie, et qu'il est surtout insensé en ce qu'il ne veut pas rejeter une doctrine corrompue. Mais Dieu a choisi les moins sages selon le monde. Car c'est là le plus grand signe de supériorité, vaincre par des ignorants. En effet, les Grecs ne rougissent pas autant d'être vaincus par des sages, mais ce qui les couvre de honte, c'est de se voir dépassés en philosophie par un artisan, par un homme du peuple. Aussi l'apôtre dit-il, pour confondre les sages. Et ce n'est pas en ce point seulement, mais aussi en ce qui touche les autres avantages de la vie, que Dieu a ainsi procédé. Car il choisit les faibles selon le monde pour confondre les forts. Ce ne sont pas seulement des ignorants, mais des pauvres, des hommes méprisés et obscurs qu'il a appelés pour humilier ce qui était constitué en puissance. Et les plus vils et les plus méprisés selon le monde, et ceux qui n'étaient rien pour confondre ce qui est. Et qu'appelle-t-il ici, ce qui n'est rien ? Ceux qui sont considérés comme rien parce qu'ils n'ont aucune valeur, Dieu a fait preuve d'une grande puissance en renversant les grands par ceux qui semblent n'être rien. C'est ce qu'il exprime ailleurs quand il dit « Ma puissance éclate davantage dans la faiblesse ». C'est en effet une marque de grand pouvoir que des hommes sans valeur, dépourvus de toute instruction, aient subitement appris à raisonner sur des questions plus élevées que le ciel. Nous admirons surtout le médecin, le rhéteur ou tout autre maître quand ils instruisent et forment parfaitement des ignorants. En cela, Dieu n'a pas seulement voulu faire un miracle et prouver sa puissance, mais réprimer la vaine gloire. Ce qui faisait dire d'abord à Paul « pour confondre les sages, pour détruire ce qui est » et ensuite « afin qu'aucun homme ne se glorifie devant Dieu ». Car Dieu fait tout pour réprimer l'orgueil et la présomption, pour abattre la vaine jactance, et vous y persévérez. Il fait tout pour que nous ne nous attribuions rien et que nous lui rapportions tout, et vous vous êtes livrés à un tel et à un tel. Quel pardon obtiendrez-vous? Dieu nous a prouvé, et cela dès le commencement, que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Car déjà alors, les hommes ne pouvaient pas se sauver par eux-mêmes, mais ils avaient besoin de considérer la beauté du ciel, l'étendue de la terre et les autres corps créés, pour pouvoir s'élever jusqu'à l'auteur de ses ouvrages. Son but était déjà de réprimer d'avance la vaine estime de la sagesse. Car le mal venait de là, de ce que les hommes prétendaient être plus sages que les lois de Dieu et ne voulaient point s'instruire selon ses ordres. Aussi n'ont-ils absolument rien appris. Ce n'est donc point par jalousie que l'apôtre combat leur vaine ostentation, mais pour les préserver de la ruine qu'elle engendre. C'est de lui que vous avez été établis en Jésus-Christ, qui nous a été donné de Dieu pour être notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Ces mots « de lui » ne se rapportent point ici, ce me semble, à la production, à l'existence, mais à la foi. Il veut dire que les enfants de Dieu ne sont point formés du sang et de la volonté de la chair. Ne pensez donc pas qu'après nous avoir guéris de la vaine gloire, il nous laisse là. Non, il nous fournit une raison plus haute de nous glorifier. Il ne faut pas se glorifier devant lui. Vous êtes ses enfants et vous l'êtes devenus par le Christ. En disant, il a choisi les moins sages selon le monde, les plus méprisables selon le monde, et il fait voir que la plus grande noblesse est d'avoir Dieu pour Père. Or cette noblesse, nous ne la devrons point à un tel ou à un tel, mais au Christ qui nous a rendus sages, justes et saints, car c'est le sens de ses paroles qui est devenu notre sagesse. Qui donc est plus sage que nous qui possédons non la sagesse de Platon, mais le Christ lui-même par la volonté de Dieu? Que veulent dire ces mots qui nous a été donnés par Dieu? Après avoir dit de grandes choses du Fils unique, il ajoute le nom du Père pour que personne ne pense que le Fils ne soit pas engendré. Après avoir dit qu'il a pu de si grandes choses et lui avoir tout attribué en disant qu'il est devenu notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption, il ramène de nouveau tout au Père par le Fils en disant qu'il nous a été donné de Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il nous a rendus sages mais qui est devenu notre sagesse? C'est pour nous faire sentir l'excellence du don. Car c'est comme s'il disait qu'il s'est donné lui-même à nous. Maintenant, il dit qu'il est devenu notre justice, en sorte que chacun peut à volonté y participer abondamment. Car ce n'est pas un tel ou un tel qui nous a rendus justes, mais le Christ. Que celui qui se glorifie donc en lui, et non dans un tel ou un tel. Telle est l'œuvre du Christ. C'est pourquoi, après avoir dit « qui est devenu notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption », il ajoute « afin que selon qu'il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Voilà pourquoi, encore, il se déchaîne vivement contre la sagesse des Grecs, afin de persuader par là même aux hommes de se glorifier en Dieu comme cela est juste. Lire la Bible avec les pères de l'Église est à présent terminé. Bonne journée, au revoir.